Ici Luc Boussard de Radio Diwa pour une émission sur les Cave Giants avec Arnaud van der Voord qui est l'œnologue de la Cave Coopérative. Monsieur van der Voord, j'ai lu dans la salle d'attente que les Cave Giants avaient été primés, avaient reçu plusieurs médailles au concours d'écrément.
Oui, tout à fait.
Vous avez aussi cette année fêté le 60e anniversaire de la Cave.
Voilà.
Donc il semble que ce soit une année porteuse, 2010. Qu'en est-il pour le vin, pour la vigne? Qu'en est-il de la cuvée 2010? Où est-ce qu'on en est?
Alors le millésime 2010 est un millésime très intéressant. On n'est pas sur un millésime très riche en sucre comme le millésime 2009, mais on a une belle année, une bonne année qui va être comparable à une année comme 2007, moins les épisodes de grêle qu'on avait connus sur 2007. Non, c'est une année équilibrée, on a beaucoup d'acidité, mais qui devrait se déposer un peu par elle-même dans les cuves au fur et à mesure des vinifications, donc on en est plutôt satisfait.
Si vous voulez bien, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas suffisamment, est-ce qu'on peut faire une brève description, un bref historique de ce qu'est la Cave Coopérative Giants?
Oui, bien sûr.
Vous êtes né en 1950.
Voilà, la coopération est née en 1950 d'une poignée d'adhérents qui, au fur et à mesure, a vu différentes vignes et avec différents viticulteurs les rejoindre. Donc 1950, c'est le point de départ. Aujourd'hui, nous sommes à 1050 hectares de surface vignoble pour à peu près 225 adhérents. C'est une entité assez importante dans la vallée, hein, puisque l'ensemble des appellations du Diwa couvre 1300 hectares. Vous avez la marque Giants qui a été créée, qui est une marque de distribution, qui appartient totalement à la Cave Coopérative, qui a vu jour en 2001, afin de promouvoir davantage les AOC divoises sous une seule marque, la même marque.
Bon, sur le plan juridique, donc tous vos adhérents, tous vos viticulteurs, oui, sont des coopérateurs, font partie de la coopérative.
Voilà. Ils ont un contrat signé avec la coopérative, ils sont en apport total. C'est l'exigence du contrat. Donc voilà, nous devons d'accompagner sous forme de conseil au niveau de la viticulture. Et ensuite, ils se fédèrent au niveau de la coopérative pour les vinifications. Et donc la coopérative emploie différents corps de métier, dont le mien, celui de l'œnologie. Voilà,
oui.
afin de pouvoir donc unir leurs forces pour vinifier en commun les vins de la cave de Dick qu'on connaît maintenant sous le nom Giants.
D'accord. Et donc les différentes productions, les différentes récoltes sont mélangées lors de l'assemblage.
Voilà. Alors on va pouvoir réaliser différentes choses, soit des parcellaires, donc avec l'idée d'effet terroir, comme pour des vins dits tranquilles, hein, c'est-à-dire des vins sans bulle.
Oui.
Nous, on a cette force dans le métier des vins de la bulle, de réaliser des assemblages pour avoir des goûts qu'on va retrouver chaque année. Donc vous avez par exemple une cuvée en clairette de Die, méthode ancestrale, la cuvée impériale. Elle n'est pas millésimée. Et l'idée étant que le consommateur retrouve chaque année le goût qui lui plaît sur le circuit impérial. Donc par cette technique, nous pouvons assembler les vins de l'année avec les vins des années précédentes. Vous trouvez aussi également des vins millésimés, comme la Grande Tradition.
C'est à peu près la seule cuvée qui soit millésimée chez Giants, je crois.
C'est la seule actuellement, et la prochaine cuvée icône sera millésimée.
Mmh.
Voilà. Lors de son lancement, la cuvée icône a été élaborée principalement à partir du millésime 2008.
Mmh.
On a préféré d'abord voir un peu le retour public, le comportement du produit aussi au niveau des restaurateurs. Le vin fonctionnant bien au niveau des accords mets-vins, plaisant aussi au public. Bon, on est parti sur une idée aussi de millésime.
Donc l'assemblage, ça c'est votre partie en tant qu'œnologue, c'est vous qui vous en chargez.
Tout à fait. Aussi bien donc assemblage, comme on disait précédemment, de parcelles que de millésimes.
Voilà,
et tout au long du processus de vinification. Donc ça peut commencer sur jus de raisin en cuve, puis ensuite sur vin en tirage en prise de mousse.
D'accord. Donc en fait, l'assemblage, ça réunit trois critères. Le terroir ou les parcelles.
Bien sûr.
Le millésime.
Tout à fait.
Et puis le cépage.
Voilà. Voilà, l'alliance des cépages. Alors, vous faites bien de le souligner, au niveau de la méthode ancestrale, on peut utiliser deux cépages, le muscat et la clairette.
Oui.
Alors, assez curieusement, la clairette de Die est composée majoritairement de muscat.
Le muscat.
Le muscat à petit grain, hein, puisqu'il y a plusieurs variétés utilisées dans le monde du vin.
Oui.
Donc, nous avons le muscat à petit grain qui sera présent minimum à 75% des assemblages. Ça, c'est de fait par le décret d'appellation.
Mm-hmm.
Et on peut le compléter ou non par le cépage clairette. Donc il ne pourra pas représenter plus de 25%.
En vin locaux, en vin de Die, Jaillance ne fait que des vins tranquilles. Vous ne faites plus de coteaux de Die en blanc ou...
Alors des coteaux de Die, moi j'ai été précédé par des collaborateurs, enfin des confrères, depuis déjà plusieurs années. Moi je suis assez jeune encore, donc je n'ai jamais connu les coteaux de Die à la cave de Die.
Jaillance,
Je suis pas sûr de mémoire qu'il y en avait encore moi, quand je suis arrivé. En tout cas, depuis toujours, oui, on a du Châtillon d'Ivoire, en vin tranquille.
D'accord. D'accord. Et vous faites aussi des vins effervescents, des vins pétillants, non seulement dans le Diois, mais j'ai vu sur votre site, en Bourgogne, à Vouvray, à Bordeaux.
Voilà. Alors, on a différentes déclinaisons de l'activité des laborateurs de vins effervescents. Donc, dans le Diois, nous allons travailler les produits de A à Z.
Oui.
À savoir, les viticulteurs, nos adhérents, travaillent leurs raisins, nous les apportent, nous les vinifions. Mmh. Et nous allons jusqu'à la mise en bouteille avec notre propre marketing.
Oui.
Nous avons, au niveau de Bordeaux, une société qui s'appelle Brouette, qui appartient à la société Jaillance. Donc cette société est située à Bourg-sur-Gironde, nous achetons nos vins de base, qui sont donc des vins sans bulles, destinés à l'élaboration en prise de mousse. Et cette élaboration, nous la réalisons nous-mêmes.
Une cave locale.
Dans une cave locale, voilà, qui nous appartient à Bourg-sur-Gironde.
D'accord.
Voilà, pas très loin de Bordeaux.
Ouais.
Et pour le Vouvray, là, nous avons une autre facette d'un métier de négociant presque. Hein.
Mm-hmm.
Nous travaillons en partenariat avec une société qui s'appelle Blanc Foussy, auprès de laquelle nous avons sélectionné un parcellaire. Et donc, ce parcellaire est vinifié en vin de base. Et ensuite, la prise de mousse est faite aussi par ce partenaire pour nous. Voilà. Et enfin, en Bourgogne, là, nous sommes sur un négoce un peu plus simple, c'est-à-dire que nous goûtons différents vins finis, effervescents, et nous sélectionnons ceux qui nous correspondent le plus, ceux qui correspondent le plus à l'image Jaillance, ce qui est une image en général sur des produits plus fruités, assez festifs.
Donc vous choisissez des vins effervescents de producteurs qui sont vinifiés par les producteurs.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Alors, on a un partenaire aussi assez permanent en Bourgogne, en fait, qui nous garantit toujours la reproductibilité de la qualité. On s'attache toujours de façon à un suivi qualité, voilà, même si on n'élabore pas nous-mêmes, on est assez rigoureux. On aime bien connaître un peu les pratiques de notre partenaire.
Et si je veux résumer, donc Jaillance, ce sont les vins effervescents, soit en méthode traditionnelle, soit en méthode ancestrale.
Tout à fait.
De la région d'Oise,
oui.
Du Bordelais, de la Bourgogne, de Vouvray,
oui.
Plus les vins tranquilles de Châtillon.
Tout à fait.
Voilà.
Et il y a une petite facette aussi qu'on oublie assez souvent chez Jaillance, c'est un partenariat avec des élaborateurs de vins, Gigondas, Vaqueras, Châteauneuf-du-Pape. Donc nous achetons ces vins, nous les revendons soit par vente par correspondance ou auprès de restaurateurs en complément.
Sous l'étiquette Jaillance.
Alors, pas forcément sous l'étiquette Jaillance, là, ça va être en complément de nos gammes, justement. Par le biais de partenariats commerciaux.
J'aimerais bien qu'on s'étendre un petit peu sur un des choix que, me semble-t-il, Jaillance a fait depuis un certain temps.
Mm-hmm.
C'est le choix de la bio, de l'écologie.
Mm-hmm.
Vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Oui, tout à fait. Alors, moi déjà, ce qui m'a séduit, parce que je suis dans cette entreprise depuis 5 ans, ce qui m'a séduit, pour parler franchement, quand j'ai vu l'offre d'embauche chez Jaillance, c'est d'avoir visité, lors de mon entretien, je connaissais déjà un peu la vallée de la Drôme, d'avoir visité cette entreprise, d'avoir pu remarquer que l'entreprise portait une attention toute particulière à l'environnement, au bien-être aussi de ses salariés. Donc toutes ces démarches, on les retrouve aussi dans les notions de développement durable. Et puis ensuite, quand j'ai été embauché, j'ai pu me rendre compte avec plaisir que depuis, on va dire, fin des années 80, début 90, nous avons eu les premières commercialisations de vins bio. Les premiers viticulteurs bio étaient déjà certifiés bio avant même la commercialisation de vins par la coopération. Donc il y a un réel engouement, il y a une réelle prise de conscience de la protection, enfin de l'environnement dans lequel nous vivons, de protéger cet environnement-là. Et je dirais même au-delà de la coopération, c'est une manière de vivre qu'on connaît au quotidien dans le Diois. Donc ça paraît un peu naturel qu'une entité économique comme la cave coopérative de Die, comme Giants, se doivent de respecter aussi son environnement. Donc c'est vrai que le bio est apparu assez tôt, bien avant, comme on peut lire par moments dans certaines presses, la mode du bio. La coopération se penchait déjà sur le bio avant même que ce soit lucratif. Donc c'est assez naturellement qu'actuellement on trouve des produits bio élaborés par la cave et avec des raisins qui arrivent dans des qualités parfaites, puisque ce sont des gens qui ont du savoir-faire sur la conduite de la vigne en bio. Et donc nous avons des produits qui sont réguliers, qui sont reconnus. Vous évoquiez les récompenses, les vins bio fonctionnent très bien au niveau de différents concours et différents guides de recommandations. Cette année, nous avons une étoile sur deux produits différents. Nous avons une claire de Die tradition bio qui a été étoilée au guide Hachette, le Crémant de Die qui est bio cité au guide Hachette. Donc parmi d'autres vins aussi de notre gamme citée, mais donc on voit qu'on a on est au-delà d'un effet de mode ou d'un complément de gamme. On est vraiment sur une prise de conscience du vigneron au départ, hein, puisque ce sont les viticulteurs qui ont incité cette démarche, et ça a été suivi derrière tout naturellement par le technique en la personne donc de notre directeur technique M. Alain Bonneau, que moi je n'ai pas connu, mais qui avait beaucoup vinifié, beaucoup travaillé sur les vins bio. Et puis aujourd'hui, l'équipe de notre directeur technique actuel, Paul Vallot, moi-même, qui donc avons conscience qu'on doit vinifier des vins bio, on doit vinifier des vins conventionnels. On a des approches différentes, ouais. Donc c'est très intéressant.
Parce qu'il y a un reproche qu'on entend beaucoup, qu'on fait fréquemment au Siglabé, c'est de garantir la qualité bio des raisins,
oui,
mais de n'apporter aucune garantie sur la vinification elle-même. Alors est-ce que vous, Giants, vous pouvez nous dire qu'on est sûr de boire en achetant vos vins, des vins qui ne sont pas trop soufrés, qui n'ont pas été collés
Alors la notion de collage, c'est pas une notion qui est défendue par le bio ou qui ne serait pas défendue non plus. La notion de sulfitage, c'est pas non plus une notion bio ou pas bio. Nous ne sommes pas sur ces vins-là, mais si vous prenez le cas des vins d'Ange Tardive ou des vins de Sauternes, par exemple, pendant très longtemps, pour arrêter les fermentations, le blocage des levures se faisait par sulfitage.
Oui,
Il y en a beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a d'autres procédés davantage mécaniques. Mais il faut toujours se méfier de ne pas jeter la pierre trop rapidement, parce que c'est facile quand on élabore des vins rouges qui se protègent tout seuls de l'oxygène, ça l'est beaucoup moins quand on élabore des vins blancs, très sucrés, qui ne se protègent pas tout seuls de l'oxygène, étant donné qu'il n'y a pas de matière colorante, il n'y a pas d'anthocyane ou de tanin.
Mais c'est l'art de l'œnologue, ça. Il y a quand même des gens qui font des vins blancs sans soufre, j'en connais, moi.
Tout à fait. Mais au niveau de nos vins, même si vous évoquez le fait que donc la charte des vins bio n'est actuellement pas signée par l'Europe, cette charte des vins bio, elle est déjà préécrite, elle a juste pas été acceptée malheureusement au niveau européen, mais elle est déjà écrite. Nous, il y a 2 ans de cela, on a reçu le début du projet Arwine. Donc sur notre site, mon collaborateur Olivier Mallet pour la partie viticulture s'est entretenu avec des personnes qui venaient de l'ITAB, l'association ITAB. Moi pour la partie vinification, je me suis entretenu avec eux aussi. L'année dernière, si je ne m'abuse, je crois que c'était l'année dernière, nous avons reçu les journées ITAB aussi à la cave de Die. Donc on aime bien faire partie de cette discussion sur les vins bio et de cette recherche de progrès pour pouvoir vinifier effectivement en conformité avec la notion bio. Il faut savoir qu'actuellement, quand vous élaborez des vins bio, c'est vrai que le raisin est certifié bio, mais Ecocert, puisque nous sommes chez Ecocert, sans vouloir faire de publicité, les vignerons sont certifiés donc par Ecocert pour l'activité raisin, mais nous sommes certifiés aussi pour l'activité vinification.
Ah, d'accord.
Donc Ecocert vient, prélève au hasard, il n'y a rien de convenu, c'est impossible, hein, ce sont des professionnels de l'audit, de toute façon, aucun intérêt à ne pas contrôler sérieusement les entreprises, hein, puisqu'ils sont indépendants. Donc Ecocert nous contrôle, prélève, va regarder éventuellement si on aurait des traces d'insecticides, d'herbicides. Mm-hmm. Ça prouverait qu'au niveau de la vigne, il y aurait eu une tricherie.
Oui.
Mais vont vous contrôler aussi au niveau des vins, la présence ou non, lors de la vinification, de produits qui ne seraient pas conformes avec...
Genre agent de saveur ou...
Alors agent de saveur, c'est totalement interdit, même dans les vins non bio. Par contre, on pourrait, pourquoi pas, utiliser des produits de collage. Vous avez évoqué les produits de collage, des produits issus de l'hémisynthèse, donc qui ne seraient pas des produits naturels.
Mm-hmm.
Donc tout ça, on peut évidemment bien le repérer par analyse.
Par analyse, oui.
Voilà. Et bon, nous, on n'a jamais joué le jeu au niveau des vins d'utiliser ce genre de produits. De toute manière, nous sommes contrôlés. Voilà. Quand bien même les gens penseraient que ça ne garantit pas forcément le vin. Il faut savoir que de toute manière, Ecocert est déjà bien au-delà de l'idée, ou les organismes comme Ecocert sont bien au-delà de l'idée des vins non contrôlés au niveau des processus de vinification. Ça fait déjà depuis très longtemps qu'Ecocert nous suit. Pour l'anecdote, Ecocert vérifie aussi la potabilité de l'eau qu'on utilise pour rincer nos cuves. Voilà. Et nous demande plus d'analyse qu'une commune peut nous fournir.
Donc tout ça est très sérieux.
Voilà, c'est très très encadré, c'est très sérieux. Il faut vraiment que les consommateurs, je ne parle pas que pour nous, soient rassurés sur les vins bio, il y a une réelle démarche.
Un autre aspect sur lequel les producteurs de vins naturels et les consommateurs éclairés commencent à beaucoup insister, c'est le respect du sol. Je vois ça souvent.
Oui.
Par exemple, il y a de plus en plus de viticulteurs qui refusent les tracteurs et les engins dans leurs vignes. Vos vignerons font des vendanges manuelles pour la plupart ou...
Alors, la vendange manuelle, elle est historique à la cave. C'est-à-dire que nous avons toujours eu de la vendange manuelle. Tous nos coopérateurs doivent vendanger manuellement. C'est une obligation.
C'est une obligation de l'appellation Clairette ou c'est une obligation de l'Alliance?
Je vais le refaire historiquement. C'est une obligation depuis 1950 pour la cave coopérative d'Audi, puisqu'à l'époque, Jaillance n'existait pas encore. Ça l'est toujours. Et nous avons même travaillé au niveau du syndicat pour que ça soit une obligation au niveau de l'appellation.
De l'appellation.
Voilà. Ouais. Alors actuellement, il y avait quelques machines à vendanger dans l'appellation. Mmh. Donc elles sont encore tolérées jusque 2015. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en avait eu quelques machines achetées récemment, donc on ne peut pas non plus dire à quelqu'un du jour au lendemain, la machine, il faut la revendre.
Mmh.
Voilà. Mais nous, en tout cas, nous sommes les seuls actuellement à garantir que toutes nos bouteilles, qu'elles soient vendues en grande distribution ou au caveau, tous les prix sont issus de raisins vendangés à la main. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour la partie, respect du terroir, mais respect évidemment aussi de la valeur humaine. On parlait de développement durable tout à l'heure, et dans un développement durable, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique.
Et l'aspect social.
On les a évoqués, mais il y a l'aspect social qu'on oublie assez souvent.
Ouais. J'ai vu que Jaillance insiste beaucoup là-dessus.
Voilà, il ne faut pas oublier que Jaillance, donc on disait 225 adhérents, 130-135 salariés, mais en emploi induit, on est à 1000 emplois.
D'accord.
Donc on a conscience de notre impact et de notre importance dans l'économie
locale.
Vous devez
être à peu près la plus grosse entité économique locale, je suppose.
Il me semble que nous sommes juste derrière l'hôpital.
Ah oui.
Voilà. Mais bon.
Bon, l'hôpital, mais...
J'espère que l'hôpital restera.
Oui. Voilà. Espérons-le.
Voilà. Ouais. Mais donc il ne s'agit pas effectivement d'un concours. Hein. On n'est pas là pour dire on aimerait être la première entité. Mais on a conscience de notre importance et on a un devoir, au-delà du devoir économique de l'entreprise, on a un devoir aussi social, indéniable. Ouais. Ça, c'est sûr.
Mmh. Pour continuer sur le bio, j'ai entendu dire que Jaillance apportait un soutien à la conversion pour les vignerons qui souhaitent se convertir. C'est-à-dire, on m'a dit que vous achetez le raisin au prix du raisin bio pendant les années de conversion.
Alors voilà, il y a un progrès au niveau du prix du kilo de raisin pour les personnes qui sont en conversion.
Mmh.
Et voilà, il faut savoir que les premiers viticulteurs bio, au départ, le raisin était amené à la coopération, ils étaient sur des prix à peu près équivalents.
Mmh.
Voilà, faut quand même souligner le courage du travail des gens qui se sont investis en bio, qui n'ont pas choisi la facilité à une époque où on riait, on peut en parler franchement, on riait souvent de tous ces gens-là, au niveau des vignobles français, on se moquait d'eux parce qu'ils travaillaient le sol, ils ressortaient la charrue, ils allaient supprimer les insecticides, ils allaient se faire peur assez souvent avec des traitements dits plus naturels, mais qui sont quand même moins sécurisants pour le viticulteur, puisque ils vont avoir des temps d'action qui vont être un petit peu plus courts. Hein. On parle du cuivre et du soufre.
Ouais.
Donc il faut bien placer son cuivre au niveau du traitement, il faut bien placer son soufre aussi. Il faut en fait tout simplement être bien à l'écoute de sa vigne. Et ces gens-là ont démarré en faisant des efforts personnels. Donc c'est sûr que voilà, on ne peut que leur rendre hommage, et c'est surtout eux qui ont amené le bio à la coopération. Moi, je ne fais que de transformer les raisins en vin, et en respectant cette démarche. Mais le travail vient davantage de ces personnes.
Permettez-moi une question petit peu provocante.
Vous en prie.
Vous êtes œnologue.
Oui.
J'ai un peu le sentiment, moi, je ne suis pas tout seul, que dans le temps, on n'avait pas besoin d'œnologues. Les viticulteurs savaient comment faire du vin par leur père, par leur grand-père, etc.
Oui.
Et puis, on a eu une espèce de crise où on a eu beaucoup de vins chimiques. Et
oui.
Puis, les œnologues sont arrivés. Et de nouveau, on fait des vins plus propres, plus soigneux, mais à peu près 10 fois plus chers qu'il y a 20 ans. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement continuer à suivre les savoirs ancestraux et...
Alors là, vous me posez une colle, parce que moi, à l'époque, j'étais tout petit, hein,
ouais.
À l'époque des vins poussés par la chimie. Alors, au niveau de l'œnologie, souvent, on entend œnologie, œnologue, on disait, bon, le médecin du vin...
Mon père disait œnologue égale chimiste.
Voilà, on parle souvent de chimie. Il faut savoir que nous, même quand on parle de vin dit conventionnel, donc non bio, on a une liste exhaustive de pratiques et de produits œnologiques qu'on peut utiliser. Donc déjà, on ne peut pas utiliser n'importe quoi.
Ouais.
On
ne
peut pas rajouter du goût dans un vin, on ne peut pas rajouter de la couleur dans un vin rouge, on ne peut pas aromatiser un vin.
Sauf par un coupage, quoi, peut-être, éventuellement.
Oui, ou une fraude, voilà.
Ce serait une fraude. Je veux dire, par l'assemblage des raisins, sur un vin rouge, on peut modifier la couleur.
Oui, mais par exemple, sur une mauvaise année, les raisins ne sont pas assez mûrs, la couleur ne vient pas. Voilà. On aura une année un peu plus difficile.
Ouais.
Alors, il y a deux approches. Hein. C'est vrai qu'à une époque, les œnologues étaient un petit peu les dieux du vin. Donc souvent, on les présentait un petit peu comme les chimistes. Le principal acteur dans le vin, dans le jus de raisin au départ, c'est la levure.
Ouais.
La levure, elle est naturelle. Hein.
Ouais,
donc, en méthode d'Ivoise, nous, en plus, le décret d'appellation interdit de levure les vins, donc qu'on soit bio, en bio ou pas en bio, de toute manière, la levure, elle est arrivée avec le raisin, elle est arrivée, elle est du Diwa, elle est de la vallée. On est plus dans une démarche de biochimie que de chimie. C'est une chimie liée au vivant. Il ne faut pas avoir peur du mot chimie, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est tous contents, quand on est malade, de pouvoir utiliser des plantes ou alors même des médicaments. Après, le tout, c'est de ne pas faire d'excès. Ça, on est d'accord, il faut que ce soit encadré. Je dirais, c'est qu'à une époque, aussi bien comme au niveau de l'agriculture de manière générale, c'était plus des démarches globales, on poussait à l'intensif. Donc, assez logiquement, on retrouvait au niveau du vin le prolongement de cette réflexion. L'intensif, les volumes, faut oublier que la crise de surproduction en France, avec trop de volumes par rapport au marché, donc c'était à la fin des années 80, donc il y a déjà quand même quelques temps.
Et pas assez de qualité aussi.
Et pas assez de qualité, puisqu'on allait trop vers la démarche chez Français, donc c'est bon. On entend souvent au niveau des discussions sur le vin, dire oui, les vins étrangers, ils ont eu moins l'avantage, c'est qu'ils nous ont poussé à retravailler très sérieusement, puisque c'est vrai que les terroirs français et le savoir-faire français est capable de produire des vins remarquables. Par contre, on peut, comme n'importe où aussi, faire des vins assez dilués. Tout à fait.
Ouais.
Voilà, donc ça a au moins eu le mérite de réveiller la profession, et vous avez raison de souligner que les œnologues n'y ont pas coupé. Ça ne me fâche pas, votre question.
Très bien. Une question un petit peu plus technique pour ma gouverne. Quand je me suis penché un petit peu sur les différents processus, sur la méthode ancestrale et la méthode traditionnelle, j'ai vu que pour la méthode traditionnelle, comme en Champagne, on ajoute une liqueur de tirage. Vous pourriez m'expliquer ce que c'est que cette liqueur de tirage ?
Alors, le principe de la méthode traditionnelle, on n'emploie pas le mot méthode champenoise, puisqu'elle est déposée par le CIVC, par le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne. Mais au niveau de la technique, c'est ni plus ni moins que la méthode champenoise qui s'est exportée.
Ouais.
Ce qui va changer, c'est le terroir, bien évidemment, et les cépages du Diwa qui vont être utilisés, donc à savoir clairette, aligoté, muscat. Ces cépages-là vont être vinifiés en vin de base. Donc, ce qu'on appelle un vin de base, c'est un vin sans bulle,
un
vin tranquille. Voilà, légèrement moins alcoolisé qu'un vin tranquille qui serait prêt à la vente. Pour la méthode champenoise, on utilise ce vin, on lui rajoute du sucre et des levures pour pouvoir réaliser la prise de mousse en bouteille.
D'accord. Donc, ce ne sont plus des levures indigènes.
Non, Tout à fait.
Ouais. Voilà.
Mais qu'on soit en bio ou en conventionnel,
si on utilise la méthode champenoise, il y a un ajout de levure.
Voilà. Mmh. Alors, ce qu'on commence à voir comme proposition sur le marché des levures, hein, pour vous parler franchement, c'est des levures isolées à partir de vignerons, de vinificateurs dans des marges bio. Donc là, on a des spécialistes, des laboratoires qui vont venir travailler sur les levures, sur les biomasses fermentaires de vignerons déjà en bio. Voilà. Et donc sur le marché, on commence à voir maintenant des levures dites bio, c'est-à-dire isolées à partir de raisins bio et qui vont être développées et purifiées dans des démarches bio. Voilà, ça c'est une alternative qui peut rassurer les amateurs de bio. Voilà. Et puis on trouve quelques personnes qui prennent le risque de temps en temps de faire des champagnes ou des créments avec des levures indigènes, mais bon, y a des résultats un peu mitigés actuellement.
D'accord.
C'est très difficile d'enfermer une levure dans une bouteille, qu'elle fermente les sucres qu'on a ajoutés par la liqueur, et qu'elle arrive à tout fermenter. C'est très difficile. On est bien d'accord, on est dans le cadre de la méthode champenoise. En méthode ancestrale, nous, on ne rajoutera pas de levure non plus. Hein.
Non, ça j'ai vu qu'en méthode ancestrale, ouais. Il n'y a que des levures indigènes.
Y compris pour la prise de mousse.
Oui, oui. Est-ce qu'on peut en déduire, alors, pour les gens comme moi qui sont un peu maniaques, que la clarette traditionnelle est plus naturelle, plus bio que...
C'est une très bonne remarque.
Ouais.
Alors, en tout cas, plus naturelle.
Ouais.
Au sens naturel...
Il n'y a pas d'ajout de sucre.
Alors, si on est dans une démarche de recherche d'un produit naturel, on se place dans le cadre d'une clarette de dit méthode ancestrale, même si elle n'est pas bio, le sucre que vous avez à la fin sera issu du raisin.
Oui.
On est dans le cadre d'un champagne bio ou d'un crément de dit bio. On peut en parler en toute... franchise, puisque nous produisons aussi des créments de dit bio, le sucre qui servira à la prise de mousse n'est pas issu du raisin.
Même c'est si une c'est forme bio. De chaptalisation finalement.
C'est ça,
ouais.
C'est la technique pour les vins effervescents. On a souvent peur de le dire, même dans la démarche de produits naturels, mais les vins effervescents de manière générale sont des vins dits technologiques quand même.
Ouais.
S'il n'y a pas intervention de l'homme, la bulle ne se fera pas. Il faut bien un moment emprisonner le vin dans une bouteille, et ça ne se fera pas naturellement comme ça.
Ouais.
Ou alors les résultats seront assez archaïques. Les bouteilles pourront exploser, donc voilà, c'est assez délicat. La méthode ancestrale, c'est une méthode qui elle, est plus intéressante, évidemment, dans le cadre de cette démarche naturelle. Alors, effectivement, quand en plus on est sur une clarette de dit ancestrale bio avec en ayant toujours ces sucres résiduels qui sont issus du raisin au départ, on est encore plus naturel.
Ouais, là, on est dans un vin parfaitement naturel.
Voilà. Et j'irai même plus loin, nous...
Terre n'a pas été amendée par des engrais chimiques, s'il n'y a pas eu de pesticides... les engrais chimiques, vous en utilisez en bio, vous n'en utilisez pas.
Ah non, c'est interdit en bio, et de toute façon, l'engrais chimique, je crois même que c'est interdit maintenant de manière générale. Hein. La fumure, elle est organique. Hein.
Ouais.
La fumure chimique, en tout cas dans la vallée, j'ai souligné le savoir-faire des viticulteurs bio, mais même les viticulteurs conventionnels sont assez concernés par l'environnement.
Ouais.
Vous avez d'autres régions en France que je ne citerai pas, mais qui utilisent énormément d'anti-pourriture, par exemple.
Ouais.
Ici, même des gens qui ne sont pas en bio n'utilisent pas d'anti-pourriture. Alors c'est vrai qu'on a un climat qui s'y prête bien, on a le Mistral qui naturellement va assécher avec de la Drôme quand il souffle en vallée du Rhône, et puis on a les dernières influences méditerranéennes avec de grosses amplitudes thermiques entre jour et nuit qui nous permettent toujours d'avoir des vents de montagne le soir, ça nous permet de sécher les vignes, ça nous permet de balayer tout ça, donc on est un peu, on va dire, béni des dieux pour la géographie, mais... et puis toute l'activité pédologique du terroir. Mais on a aussi des gens qui ont conscience, qui ne choisissent pas la facilité, qui ont conscience de ne pas utiliser des produits chimiques quand il n'y a pas besoin, y compris en conventionnel.
Encore une petite question technique, oui, toujours à propos de la méthode traditionnelle ou champenoise. Il y a l'ajout de liqueur de tirage pendant la fermentation et après, au remplissage, il y a l'ajout d'une liqueur d'expédition.
La liqueur d'expédition, elle a un autre nom, c'est la liqueur de dosage. Quand vous achetez un crément ou un champagne brut, il peut contenir des sucres de 0 à 15 grammes par litre de vin. Voilà. Donc ça, c'est dans la nomenclature brute. Alors nous, en crément de dit, on ne peut pas faire autre chose que des brutes, mais on peut très bien rajouter une liqueur d'expédition pour doser légèrement le crément. Voilà. C'est pour travailler l'équilibre sucre-acidité, en fait.
D'accord, la liqueur d'expédition, c'est du sucre, en gros.
Voilà, c'est du sucre, oui. Alors, à savoir, ce n'est pas obligatoire encore dans les démarches de vinification, on en parlait tout à l'heure, au niveau des vinifications bio, on peut utiliser du sucre normal comme du sucre bio. Ça, c'est un peu une aberration. Nous, on utilise exclusivement du sucre bio pour nos liqueurs, des produits bio. Que ce soit les clairettes brut, clair de dit brut, ou le crémant de dit brut, on est en liqueur bio, bien, enfin en sucre bio, donc bien évidemment. Il faut quand même garder une certaine honnêteté d'esprit vis-à-vis du consommateur. Voilà. Mais c'est pas le même prix au kilo, hein, le sucre bio. Ouais. Mais
bon, il semble que Giant soit convaincu de toute bonne foi
tout à fait.
Bio, que ce ne soit pas simplement une démarche commerciale.
Non, ça n'est pas du tout une démarche commerciale. Non, pas du tout. Non. Après, évidemment, c'est intéressant aussi. On en a parlé dans le développement durable. Hein. Nous, on est engagés dans cette démarche. Il y a aussi l'aspect économique. Donc, si en plus le bio peut nous permettre de vivre, c'est quand même encore mieux.
Ouais.
Et actuellement, c'est le cas. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas chercher à faire des économies à tout prix dans tous les coins, comme une grosse entreprise de notre taille pourrait le faire en essayant d'économiser sur des sucres qui. Voilà, on a le droit d'utiliser du sucre non bio, donc on n'utilisera pas du sucre bio. C'est pas du tout la démarche de l'entreprise, non. Et moi, à titre personnel, ça me gênerait beaucoup quand même.
Pour terminer, si vous voulez bien, une petite question encore un peu provocante.
Allez-y.
Je voyais sur votre site que Giant se donne comme objectif de conjuguer l'efficacité économique, l'équité sociale et la préservation de l'environnement.
Oui.
Est-ce que ça ne pose pas quand même des petits problèmes ? Il y a des termes qui semblent un petit peu contradictoires et pour pour moi, par exemple,
dites-moi.
Efficacité économique et équité sociale, ça, par exemple, dans le monde actuel, on voit que ce sont deux facteurs antinomiques.
Alors, moi, je ne vais pas me lancer sur le débat politique. Hein.
Mais à l'agence, vous arrivez à garder l'idée officielle de...
Alors, bien évidemment, c'est une tâche très délicate du quotidien et qui... qui est difficile à gérer si on essaie de la gérer tout seul. Donc à partir du moment où les coopérateurs le font très bien, leur conseil d'administration, donc ce sont leurs élus, leurs représentants donnent bien la parole aux salariés de l'entreprise via le comité de direction. Les directeurs consultent régulièrement les personnes de leur service. Il y a des réunions d'information.
L'information circule. Voilà,
Il y a des formations. Faut savoir jusqu'à temps qu'on arrive en période de crise économique, on avait des plans de formation à l'année qui étaient supérieurs au minimum exigé par la loi française. On forme notre personnel au-delà
du minimum légal.
Il y a des gens qui peuvent partir en formation. On a des personnes qui sont parties se former sur des métiers qui n'ont rien à voir avec le métier du vin parce que ça les intéressait, ça peut toujours leur servir après. Nous, on ne voit pas ça d'un mauvais œil, au contraire. Des gens qui reviennent épanouis, ce sont des gens de toute façon qui se sentent bien, et quelqu'un qui se sent bien dans son entreprise, c'est quelqu'un qui aura envie de,
qui
aura envie de partager, et puis tout simplement,
ouais,
sera efficace. Ouais. Mais c'est évident que l'équité, équité sociale et puis performance économique, ce sont des mots qui font peur parce qu'actuellement, on oublie peut-être souvent l'un des deux.
Oui.
Voilà. Après, je vous prononcerai pas plus sur ce qu'on va rentrer dans les débats politiques.
Mais on
est dans cette recherche en permanence. C'est évident que si on était sur un volet performance économique pure, Giant ne se serait pas prononcé en faveur d'une vendange manuelle, mais serait parti sur une vendange mécanique. Puis après, sur des vinifications, pour pouvoir faire des vins faciles à boire, beaucoup plus industrialisés, flatteurs, industrialisés, rapides à faire, le minimum possible. Et puis après, on pourrait parler, pourquoi pas, de techniques de cuve close, des choses comme ça, il n'y aurait plus de fermentation en bouteille. Et là, on est vraiment dans l'extrême de la performance économique. Et le volet social, pour l'activité de vendange notamment, serait déplorable.
Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a un excellent esprit d'équipe chez vous, à Giant, et donc ça permet aussi d'avoir une meilleure ambiance au boulot, d'éviter...
De toute façon, tout le monde travaille pour aller vers le même objectif, hein, c'est que l'entreprise se porte bien.
Le moins possible de perdre d'énergie liée au conflit.
Tout à fait, tout le monde y a gagné. Mais je dirais, pour avoir travaillé dans d'autres entreprises, il y a une certaine facilité à travailler avec les gens qui vont travailler en cave, les gens qui vont travailler sur la chaîne, leur expliquer le respect de l'environnement.
Oui.
Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de leur expliquer. Beaucoup de personnes qui vivent dans les Diwa ont conscience de la nature autour d'eux, donc on a énormément de gens
partagés par les Diwa.
On a énormément de gens qui sont randonneurs, on a énormément de gens qui vont cultiver un petit peu de céréales même chez eux. On a beaucoup de gens qui sont jardiniers, on a des chasseurs aussi. Alors après, c'est sur la chasse, il y a l'aspect où intérêt ou pas, mais bon, ce sont des gens quand même qui traversent la nature, ils ont cette conscience. Il y a des gens qui pêchent, donc ont conscience de l'état de propreté, l'importance de la propreté des eaux. Voilà, donc quand on leur explique qu'il faut bien faire attention à ne pas surconsommer les ressources premières, hein, comme l'eau, comme l'électricité aussi, ou voilà, comme les chauffages, voilà.
En règle générale, les Diwa, qu'ils soient de souche ou qu'ils soient d'apport récent, sont des gens qui sont très attachés à leur territoire.
Ça, c'est... Moi, je dirais, si on vient dans la région, de toute façon, on aime on est obligé d'aimer la région, donc voilà, on a envie de la préserver. Hein. Moi, je ne suis pas originaire du Diwa, mais... J'en ai tout à fait conscience. Hein.
Il me semble qu'il y a une contradiction incontournable là. À partir du moment où on veut faire de la promotion, où on veut promouvoir les exportations, où on veut vendre un peu partout, on ne peut plus être attaché à la production, à la consommation locale. On est obligé, on augmente son impact carbone,
on utilise
beaucoup les transporteurs.
Ouais.
Ça, c'est une contradiction à peu près insoluble, je pense.
Oui, ça l'est.
De faire tout local, quoi.
Ça l'est du fait qu'il y a déjà des vins qui viennent de l'export et qui sont importés en France. Donc, à partir du moment où. C'est une réalité après économique. Moi, je peux pas rentrer
dans
des.
Partie,
Non, je peux pas rentrer dans des débats qui ne sont pas trop de mon ressort, hein, partie commerciale ou même marketing. Et puis, même après, des questions politiques. Hein. Si on veut vendre que sur le territoire français, il faut aussi, dans ce cas-là, avoir conscience que les viticulteurs français ne soient pas soumis à la concurrence étrangère. Mmh. Bon, c'est compliqué. Hein.
C'est un peu compliqué.
Voilà,
on réservera peut-être ça pour ces problèmes-là avec
Virginie,
quelqu'un de chez vous qui
répondra beaucoup mieux que moi. Moi, je n'ai pas de. Ouais. J'ai des avis personnels, mais qui ne sont pas ceux de Giants. Après, c'est pareil, à partir du moment où on a 1050 hectares ou même 1300 hectares dans l'appellation, si on s'attache à la notion. Développement durable, où on revient même à l'aspect naturel. À partir du moment où on a 1050 hectares, on a imposé une monoculture à la vigne. Et on trouve d'ailleurs cette réflexion-là à travers des démarches de bio suisse, bio bourgeon, que nous on produit depuis quand même plusieurs années.
Ils ont trouvé une forme de diversité
dans
leur production.
C'est ça, un viticulteur en bio bourgeon, enfin qui se présente à la chaire bio bourgeon, doit justifier. Un certain rendu entre guillemets de biodiversité à la nature.
D'accord.
À travers soit tout simplement planter des fleurs entre les rangs,
planter
des céréales ou être en bordure de parties boisées, de surfaces boisées. Il faut pas qu'il y ait une empreinte trop importante de monoculture.
D'accord.
Donc à partir du moment aussi où on a 1300 hectares, nous c'est pas notre cas, mais l'ensemble de l'appellation fait 1300 hectares, que les vins sont produits à partir de ces raisins là, c'est évident que si tous les Diwa devaient boire 1300 hectares de clairette,
on va faire un effort.
Voilà, on est un petit peu obligé de les vendre en dehors du Diwa. Après, la question que vous posez, je remets en cause toute l'économie mondiale.
Mm-hmm. On réservera ça pour une autre émission.
Ouais.
Somme toute, donc, on peut conseiller à nos auditeurs de boire allègrement les clairettes et les créments de Giants.
Je dirais, sans vouloir faire de fausse modestie, déguster nos produits. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à nous en faire part.
Mais excellent conseil.
Le vin, c'est le plaisir. Voilà. Moi, de toute façon, je suis autant friand des critiques positives que négatives, puisque le but, quand on travaille dans les métiers de bouche dont le vin fait partie, c'est de toujours pouvoir progresser, de nous améliorer. Donc, on a besoin de se confronter à nos confrères, nos consoeurs, par le biais des concours, et puis en même temps d'écouter ce que nous disent les restaurateurs ou les clients en achetant nos vins.
Pour donner aux auditeurs une petite idée de ce qu'il leur en coûterait de boire, quelle est votre gamme de prix en vin effervescent ?
En vin effervescent, en méthode ancestrale, si on veut déguster un produit et l'acheter une grande tradition, qui est millésimée, on va être proche des 9 euros. En départ caveau, je vais parler en prix départ caveau. Si on est sur une cuvée impériale, on va être entre 7 et 8 euros. Sur les cuvées bio, on est à peu près sur les mêmes prix. Voilà. Il y a aussi des gammes en GMS, donc GMS grande et moyenne surface.
Ouais.
La marque Giants, qui arrive à des prix plus abordables, on va être vers 5 euros.
D'accord. Et votre cuvée prestigieuse, là, millésimée ?
La cuvée icône, millésimée, c'est une sélection des meilleurs raisins de l'année. Donc c'est un tri qui va être fait
pour
très
Noël,
très soigneusement.
Exemple,
voilà, pour Noël, ça peut être ça peut être un bon choix, mais c'est comme tout. Hein. On n'est pas obligé d'aimer, il faut goûter.
Et là, il faut
je ne veux pas forcer la main. Là, on est à 14,50 euros, il me semble.
Bon, ça reste raisonnable. Comparé au champagne, ça reste raisonnable.
Tout à fait. Mais l'idée, on a aussi créé une cuvée. On a porté énormément de soins, énormément de travail, et qu'il puisse être une cuvée qui intéresse aussi les restaurateurs. Mmh. Nous, notre souhait, moi, il me tient assez à cœur, serait de pouvoir entendre dire la clairette est intéressante aussi dans un restaurant haut de gamme, alors que très souvent, On nous parle un petit peu de la clairette comme d'une bonne alternative à un mauvais champagne. Faut jamais oublier que
c'est pas forcément. Un champagne, c'est excellent, voilà, une bonne clairette, c'est excellent.
C'est pas forcément flatteur de nous comparer.
Non, il y a des champagnes qui sont imbuvables et qui ont dégoûté définitivement les gens des vins effervescents.
Et il y en a d'excellents.
Et il y en a d'excellents.
Tout à fait.
J'en ai dans ma cave. Bon, ben Arnaud van der Voort, je vous remercie beaucoup pour Radio Diwa et pour les auditeurs. Et puis nous verrons si nous avons l'occasion de faire une autre émission avec les Caves Giants.
Avec plaisir.
Merci.
Au revoir.